Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hell in a Cell 2022. On était à Rosemont dans l'Illinois, 12 834 personnes, c'était sold out à l'Allstate Arena. Pour m'accompagner, pour parler catch pendant un bon moment, je suis très heureux de retrouver mon ami de toujours, Giscal. Comment ça va, Giscal ?
Ah, bonjour Ringside, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très 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 bien. Je suis très content de te retrouver aussi. Voilà, je fais la tournée. Je fais la tournée des retrouvailles après avoir retrouvé IRM. Je retrouve un autre vieux comparse. Donc comment ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ?
Oh, bah moi ça va toujours. La pêche. Toujours quand on vient parler de catch, je suis heureux. Sauf quand je fais la review de Hell in a Cell 2021. Encore une fois, je vous invite à aller
avec un traumatisme vivace.
Ouais. Bon.
Il n'y avait que 12 000 personnes à Chicago, dis donc. Ça faisait plus de bruit que ça, je trouve.
Ouais, alors il paraît que les catcheurs aiment beaucoup cette salle, cette arena, parce que le public est souvent en feu. Mais effectivement, 12 834 personnes, ça ne fait pas grand monde, mais c'était sold out quand même. Mais bon, si j'ai bien compris, j'ai l'impression quand même que maintenant, ils ne prennent pas les salles en entier hein, quand ils font des shows, du moins depuis la fin du Covid. Ça avait l'air un petit peu, je sais pas si tu as eu la même impression, mais un peu disposé bizarrement
le ring. Je t'avoue, je n'ai pas fait gaffe.
Peut-être y a notamment que un moment
la production m'a berné.
T'as berné, peut-être. Il y a notamment un moment où on voyait les portes s'ouvrir derrière et les gens partir à l'extérieur.
Ah merde. Tu as l'œil.
Après 12 000 personnes, ça reste raisonnable quand même pour un show. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu petit pour un pay-per-view. Alors on vous a décrit la carte en long, en large et en travers. On vous a donné notre prono dans le pré-show. Hein. Si jamais c'est pas encore écouté, vous pouvez peut-être aller l'écouter avant le gros pré-show qui est en ligne hein, sur YouTube. Je vous rappelle qu'on est sur Twitter hein, @catchupcdc aussi. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de faire la review plutôt de Hell in a Cell. On va vous donner notre ressenti. On va pas tarder. Alors, il n'y a plus de pré-show. Enfin, du moins, il n'y a plus de match dans le pré-show, donc ça ne sert plus à rien de le regarder.
Moi, je me suis fait avoir, tiens, tu vois, hier soir.
Ah, voilà, t'as regardé. Moi, je me suis fait avoir la
voilà,
dernière fois.
Voilà, j'avais deux, trois trucs à finir au boulot. J'ai regardé le pré-show. Et en fait, j'ai vu que des vidéos, ouais.
Voilà, les vidéos que tu revois après dans le pay-per-view.
Exactement, je me suis bien fait avoir.
Ouais. La raison, c'est que je crois Peacock, qui diffuse maintenant le Network, hein, qui a racheté le WWE Network, en quelque sorte, les droits de diffusion. Ils ne veulent pas qu'il y ait de match gratuit sur YouTube, hein, si j'ai bien compris.
Ouais. Donc, c'est pas bon pour le business.
C'est pas bon pour le business, ben non. Puis, finalement, on ne va pas s'en plaindre, hein, parce qu'on en avait un peu rien à foutre du kick-off. Oui. Ouais. Voilà, généralement.
On va pas s'en sortir.
Les matchs qui sont annoncés sont dans la carte et puis c'est tout. Voilà. Du coup, on départ avec un gros opener. Rien moins que la triple frite pour le championnat du monde d'euro féminin. Bianca Belair, la championne, défend son titre face à Asuka et Becky Lynch. 18 minutes 55 de match qui va clairement à 100 à l'heure. Hein. Becky Lynch, elle arrive encore avec une tenue absolument... phénoménal, complètement excentrique, avec un espèce de serre-tête divisé en pièces de peinture, on dirait du Picasso presque. Asuka et Bianca Belair, classico, hein, mais toujours très classe. Donc, ça va être festival de near fall hein, dans tous les sens. Les grosses démonstrations de force de Bianca Belair. Becky Lynch, tout en traîtrise, tout en technique, avec ses grandes descentes de la cuisse depuis la troisième corde. Et on a Asuka qui fait aussi de grosses démonstrations de sa rapidité, de son côté stiff dans le ring, son catch à la japonaise là, avec des grosses souplesses, des grosses baffes dans la gueule qui s'enchaînent très très rapidement. Il y a un moment donné où elle sèche Becky Lynch comme ça, hein, avec un enchaînement de claques dans la face, de coups de pied et de souplesse suivie. Donc ça va dans tous les sens, jusqu'à ce que Becky Lynch réussisse à placer Becky Lynch réussit plutôt à placer son Manhandle Slam, c'est comme ça que ça s'appelle,
oui.
Je crois.
Ouais, c'est ça.
Sur la pauvre Asuka, qui est sonnée, mais c'est alors que Bianca Belair rentre dans le ring, chope Becky Lynch, la balance à l'extérieur du ring et fait le tomber sur Asuka, sachant que au préalable dans le match, c'était un peu l'inverse. C'était Becky Lynch qui avait viré Bianca Belair du haut pour tenter un tombé qu'elle n'avait pas réussi. On a eu tout un festival de near-fall dans le match. C'était vraiment très dense. Hein. Ça allait à 100 à l'heure avec beaucoup d'enchaînements, beaucoup de contres, beaucoup de démonstrations de la part des trois catcheuses. Est-ce que tu as été convaincu par cet opener, mon bon Giscal?
Oui, j'ai été convaincu.
Clairement, on était bien servi.
On a été bien servi. C'était une belle surprise, cet opener, à tous les niveaux, puisque bon, moi, je ne fais pas secret de mon désamour de voir souvent les femmes occuper la place du main event. Tonton, si tu m'écoutes, désolé, hein, mais c'est vrai que j'étais plutôt content à plusieurs égards de les voir ouvrir le show, c'est parce qu'en plus, déjà, je savais que ça allait être, parce que je suis pas non plus fou, hein, je savais que ça allait être un très bon match, et donc c'était une très très belle façon d'ouvrir l'émission, et ça n'a pas loupé. Le public a plus que mordu dans le match, moi aussi. C'était ce à quoi on devait s'attendre. Ni plus ni moins, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était un très très bon match. C'était pas exceptionnel, mais c'était de la même manière que le build n'était pas exceptionnel. Je pense que il manquait peut-être, d'ailleurs, pour rendre ce match un peu fou, il manquait peut-être la pointe de suspense ou la pointe de storytelling qui je pense été complètement absente de toute la route vers ce match. C'est peut-être ça qui les a empêchés de franchir vraiment le niveau au-dessus, mais sinon au demeurant c'était vraiment top. Moi je suis super content de retrouver Asuka, qui m'avait pas mal manqué finalement, oui. qui a vraiment un style à elle, qui a une sorte d'aura qui est différente de toutes les autres catcheuses, et c'est vrai que ça me fait plaisir de la voir, parce que je trouve que c'est quand même assez rafraîchissant de la voir catcher dans une division féminine qui est pas forcément, moi, c'est ce qui m'enchante le plus à la WWE. Mais Asuka, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la voir. Ne serait-ce que elle me faisait marrer même pendant l'annonce des compétitrices au début du ring avec le ring announcer, et tu la vois, elle est complètement dans son monde, l'impression qu'elle est shootée. Elle fait elle-même sa présentation. Tu peux lire sur ses lèvres, elle est là, oui, from Osaka, Japan, Asuka et tout. Donc elle me fait assez marrer, elle me fait beaucoup marrer. Bianca Belair qui reste toujours aussi impressionnante physiquement. Enfin, c'est vrai que elle aussi, tu vois, je disais Asuka, c'est un petit vent de fraîcheur sur la division féminine. Bianca Belair, d'une certaine manière aussi, je trouve, a finalement réussi à gagner un petit peu mon intérêt de par. Elle a une personnalité, elle a un style, elle est en effet extrêmement impressionnante dans les cordes, et elle arrive en effet à capter manifestement quelque chose qui fait que on sent que c'est un petit peu la WWE mise beaucoup sur elle. Hein. Tu sens qu'elle elle captive l'audience, elle connecte bien, comme ils aiment bien dire là-bas. Donc ça, c'est top. Et t'as presque Becky Lynch qui est presque en retrait finalement de tout ça, qui est un peu plus old school dans sa façon de catcher, mais qui est toujours aussi précise. C'est vrai que tu vois, il y a peut-être pas de move je me souviens pas forcément de passage particulier du match de Becky Lynch, mais je suis toujours bluffé à chaque fois de sa précision, de sa justesse dans sa façon de jouer son nouveau personnage là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce cocktail à trois a très bien pris. Si ce n'est peut-être ce finish, moi, qui m'a un petit peu chiffonné, je sais pas toi ce que t'en as pensé. C'est vrai que le coup de la face qui gagne en heel dans un match où je trouve qu'elle aurait sans doute eu plus à gagner, enfin évidemment c'est un pléonasme, elle aurait eu plus à gagner clean, mais je l'aurais bien vu profiter justement de faire face à deux femmes qui sont établie en quelque sorte, hein. Voilà, Asuka, même si elle a été écartée des écrans pendant un moment, ça reste Asuka. Becky Lynch, elle, évidemment que c'est la top star. Je trouve que Bianca Belair aurait gagné sur un triple threat à avoir une victoire peut-être un peu plus décisive, et ne pas continuer toujours à jouer sur cette ligne jaune, à tergiverser. Ça a été un peu l'histoire de ce booking, hein, qui a été 50-50 ou 33-33-33 pour faire la triple threat pendant toute la road. On continue à pas vouloir y aller vraiment à fond. Je trouve que c'était un peu dommage. C'était une petite occasion manquée. C'est peut-être le point noir pour moi, ça.
Ouais. Mais on remarque qu'on sait manier les chiffres à catch-up quand même.
Oui.
Donc je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, le final, ça aurait été peut-être bien, par exemple, d'impliquer le green miss d'Asuka, dans l'histoire. Peut-être
ouais,
qu'elle aurait pu asperger quelqu'un et puis que ça aurait profité peut-être à Becky Lynch, à un micmac. Là, c'est sûr que d'avoir la babyface qui vole la victoire un petit peu à Becky Lynch, quelque part, ça fait pas trop briller Bianca Belair, mais en même temps, d'avoir une babyface qui est pas cruche, qui se laisse pas avoir,
oui,
parce qu'on voyait aussi ça aurait été l'inverse, on aurait dit c'était gros comme une maison de voir Becky Lynch voler la victoire à Bianca Belair. Et du coup, on évite d'avoir une babyface trop tartignole, trop cruche.
Non. D'ailleurs, elle fait une petite mimique qui est assez marrante au moment de faire, juste après le tombé, justement, le tombé victorieux, elle fait, bah, voyez, regardez, moi aussi, je peux le faire. Enfin,
exactement. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très bien vu de sa part. Et du coup, moi, ça m'a pas choqué plus que ça le finish. Je voyais de toute façon pas Bianca Belair perdre. Je pense pas que c'était le moment de la faire perdre de toute façon. C'est quand même très difficile d'avoir une babyface populaire. Alors, c'est un peu plus simple avec les femmes. Mais souvent, au bout d'un moment, quand même, le public, il se retourne contre le babyface. Hein. C'est, généralement, organiquement, ça arrive assez souvent, surtout si tu lui fais faire des victoires ou des défaites sur des bêtises où ils ont l'air d'être un peu bas de plafond, quoi, le babyface. Donc, il vaut mieux avoir une victoire, là, pour le coup, à l'intelligence. Il va falloir que Becky Lynch, elle fasse mieux que ça pour réussir à récupérer sa ceinture. Becky Lynch, c'est pas grave si elle perd, au final.
Becky Lynch, c'est pas grave si elle perd.
Voilà, c'est un peu plus délicat pour Asuka de se retrouver dans cette situation, mais si ça se trouve, c'est elle qui va être la prochaine first contender quand même. Parce que là, de toute façon, cette rivalité-là, elle a été faite à la va-vite. Hein. C'est,
Le problème de ce finish, c'est que du coup, Asuka a plus beaucoup d'arguments à faire valoir quand même là, mais...
C'est pas faux, mais ça les a jamais arrêtés.
Ça les a jamais... Non, c'est ce que j'allais dire, ça les a jamais arrêtés.
Il suffira d'une victoire à Monday Night Raw lundi pour la remettre en selle. Ça reste une ancienne championne, de toute façon. Asuka, ils l'ont tellement bien construite, Asuka, au final, que à chaque fois qu'elle arrive, c'est l'attraction. Et, en plus, ils arrivent à passer outre le fait qu'elle parle pas anglais. Je l'avais dit dans le pré-show ou je sais plus quand, mais pour moi Asuka, ils ont réussi à faire ce qu'ils auraient dû faire avec Shinsuke Nakamura du côté de
exactement.
Quand elle arrive, on sait qu'elle est dangereuse, quand elle catch, c'est toujours super spectaculaire. Donc
ils ont toujours bien réussi à trouver en effet le bon curseur entre ridicule et en même temps dangereux, enfin tu sens qu'elle est assez instable.
Alors que malheureusement Nakamura, on sent jamais le danger.
Non.
Ouais. Et voilà, quand il arrive, c'est pas. Alors, il y a toujours sa musique qui fait qu'il est populaire et tout ça, mais ça suit pas après quand le match démarre. Généralement, ça s'endort un peu, alors que c'est pas le cas quand il y a Asuka dans le ring, généralement. Hein. Et on l'a encore vu là, le public a particulièrement bien suivi le match et on avait une très bonne ambiance pour commencer. Bianca Belair, grande gagnante. De toute façon, comme je disais, cette rivalité, elle avait été construite à la va-vite suite à l'incident avec Sasha Banks et Naomi, donc qui ont refusé de suivre le scénario de la WWE, elles sont actuellement suspendues. On crée ce triple frite à la va-vite. Et ce qui est pratique, c'est qu'ils ont vraiment les meilleures catcheuses du monde, quoi.
Oui.
Quand tu mets Bianca Belair et Becky Lynch dans le même match, finalement, ça se fait tout seul. Hein. Becky Lynch, c'est un peu le général. Bianca Belair, c'est la rookie qui veut en démontrer et qui a les capacités d'en démontrer. Parce qu'elle est quand même hyper spectaculaire dans le ring quand elle fait ses démonstrations de force. Là, quand elle a soulevé Becky Lynch qui tentait de
faire
son armbar, c'était quand même quelque chose. Et puis derrière, Asuka, Asuka, c'est pas loin d'être la
même. C'est le Factor X.
Voilà. Elle a quand même un catch qui est...
Non, mais en effet,
c'est propre. Et puis c'était
rythmé. C'est là où tu te rends compte, en effet, du talent. C'est un truc écrit à la va-vite avec trois semaines de promo quasi inexistantes, tenues presque à bout de bras par Becky Lynch, parce que c'est vrai que c'est un peu quand même la seule qui est capable de faire des vrais promos. Et puis après, tu les fous les trois dans le ring, tu secoues un peu, et puis ça te fait un super opener... et il y a rien qui bouge, quoi. Donc c'est carré.
Ça c'est bon. Nous, toi comme moi, on n'est pas très fan du catch féminin, mais il faut quand même reconnaître que
il faut le VE,
c'est leur grosse réussite ces dernières années, quand même. Ce qui se fait de mieux par rapport au reste de la concurrence, effectivement, on ne le dira jamais assez. les suites des aventures de Bianca Belair la semaine prochaine, lundi à Monday Night Raw. Et on va voir si Becky Lynch arrivera à rebondir, tout comme Asuka. On enchaîne avec un petit passage vidéo. je suis sûr que ça t'a grandement plu, pour le précéder le match qui va opposer Bobby Lashley à Omos et MVP, car c'est bien un match handicap, 2-1, qu'on aura ce soir. Et on a donc une belle petite vidéo où on vient demander à MVP pourquoi il en veut à Bobby Lashley, quelles sont les raisons de toute cette histoire. Et là-dessus, on a un super rap de MVP qui nous explique toute l'historique, toute la carrière de Bobby Lashley, toutes les raisons de cette rivalité entre lui et son ancien poulain. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un rap comme ça.
Séquence
musicale.
Bah non, attends, enfin, j'étais bluffé. C'était quali, hein, franchement. C'était pas mal.
Bah ouais, non, c'était loin d'être dégueulasse.
Attends, MVP.
Il faisait son flow, ouais. Tranquillou.
Avant le match, il m'a presque fait douter. J'ai eu un peu peur, tu vois,
Moi aussi.
Sur mon pronostic.
MVP champion, qu'est-ce que c'est, le grand retour?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Main
event de WrestleMania, je ne sais pas. Ouais.
Ouais, alors j'ai tendance à soupçonner qu'ils ont fait toute cette rivalité uniquement pour que MVP puisse placer sa chanson. Hein, mais
il serait capable en plus. Hein.
Il serait capable, ouais. Et il y a eu une petite séquence aussi backstage, je crois, avec Cédric Alexander qui venait un petit peu discuter avec MVP. MVP qui a dit à Cédric Alexander, clairement, c'est fini, hein, le Hurt Business. Maintenant, c'est terminé. Rentre chez toi. On n'a pas besoin de toi. Avec Omos qui a appuyé le coup une dernière fois en lui disant maintenant, c'est le temps de t'en aller, hein, mon bon Cédric. Donc voilà, c'est le Hurt Business. Si vous vous posiez la question, c'est définitivement fini. Et puis peut-être que Omos et MVP, c'est peut-être définitivement fini aussi, puisqu'après 8 minutes 25 de match, malgré l'intervention quand même de Cédric Alexander qui a visiblement pas l'air de comprendre, même quand on lui explique clairement que quand c'est fini, c'est fini. Alors, il était peut-être venu à attaquer Omos, hein, mais c'était pas.
Oui, c'était pas net, mais en effet, il était venu attaquer Omos plutôt, j'ai l'impression.
Ouais, voilà. Donc, bon, bah, Omos lui a la chouk-slamé comme il se doit. Et bon, donc, on a 8 minutes 25 de match où Bobby Lashley a réussi à défoncer à peu près tout le monde. Il s'est quand même pris un espèce de spear, ou du moins une grosse poussette de Omos à l'extérieur du ring à travers la barrière d'insécurité. Mais ça n'a pas suffi à l'arrêter puisqu'il a réussi, je crois bien, à faire un spear à Omos qui est parti à l'extérieur du ring. Et après, il a piégé MVP dans le Hurtlock. Et MVP a été obligé d'abandonner. Il a tapé pendant que Omos a été définitivement séché à l'extérieur du ring. On l'a subi un petit peu, hein, cette rivalité qui aurait dû se terminer dès le premier match. Mais est-ce que quand même, on a réussi à être un petit peu entertainé, comme on dit?
Bah écoute, oui.
Quand même, hein.
étrangement, oui. Et pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup de. Enfin, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit vraiment pourri.
Ouais.
Il y avait Omos et MVP déjà. Pour
ouais.
commencer.
MVP qui est Omos
voilà,
qui est aussi agile que le Great Kali.
Exactement. Il y avait cette stipulation qui est vraiment pourrie. J'accroche pas du tout au match à handicap à 2-1 où l'équipe de 2 doit taguer. Je trouve que c'est pas naturel. Il y a un truc dans le flow du match qui va pas. C'est censé être un avantage alors que finalement. C'est pas net, quoi. Donc ça aurait dû, comme tu l'as dit, ça aurait dû se finir en un match, en fait. Mais on était typiquement dans une feutre de transition pour Bobby Lashley. C'est des feutres de rebond, comme il y en a des dizaines, hein, dans les années, dans les carrières de mecs comme ça, où il faut de temps en temps, quand le haut de l'affiche est bouché, bah tu leur envoies un gros à cogner pour qu'ils restent relevant un peu là, enfin voilà, qui reste crédible, qui reste avec du momentum. Et là, le problème, c'est que finalement la feutre, elle était en train d'être contre-productive parce que c'était presque en train de casser le momentum de Bobby Lashley, puisque des fins de match en eau de boudin, des décisions un peu 50-50, on a l'impression qu'il voulait faire traîner le truc, il voulait donner un petit peu de crédit à Omos alors que c'est pas du tout le sujet, on comprenait pas trop où est-ce qu'il voulait en venir, et on arrive enfin à ce match qui aurait dû être quasiment même peut-être le premier, et qui malgré tous ces mauvais ingrédients, eh ben écoute, j'ai trouvé elle était plutôt bien exécutée. C'est-à-dire que bah ouais, pendant 6-7 minutes, je me suis plutôt bien marré à revoir ouais l'Ashley rentrer dans l'art là de cette montagne et à avoir enfin son payoff à la fin avec ce Heartlock sur MVP. Il y a eu un petit peu d'overbooking avec les interventions de Cédric Alexander, la barrière comme tu l'as dit qui a explosé, c'était impressionnant. Voilà, 2-3 spots saupoudrés à droite à gauche, un finish bien propre, bien carré, bien fin de feud. Écoute, voilà. Tu vois, j'attendais rien de ce match et je dis pas que c'est du 5 stars, hein, mais c'est au moins c'est une bonne fin de feud comme elle aurait déjà dû avoir le lieu, mais au moins ils l'ont fait. C'est pas parce qu'ils auraient pu aussi faire n'importe quoi. Donc ça s'est bien terminé. Bobby Lashley est un gros dur à cuire et il va pouvoir enfin aller faire autre chose.
Ouais. D'ailleurs, il se saisit d'une ceinture dans le public.
Ouais.
On a une réplique pour la brandir face à la foule qui est en furie. Hein. Il est très
oui, et oui, Bobby Lashley qui est très populaire. Non, c'est pour ça, il était grand temps que ça se termine pour qu'il puisse faire autre chose. Mais d'ailleurs, voilà, hein, manifestement, ça, c'est peut-être le meilleur baromètre au-delà de notre avis. C'est que, bah, écoute, ouais, la foule est vraiment à fond dans ce Bobby Face. Et ouais. Bah, écoute, grand bien leur en face. Il est en effet très impressionnant. Et voilà, on va enfin pouvoir voir autre chose.
Ouais. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Lashley comme ça au top avec la foule, parce que ça n'a pas été simple pour lui, hein. Sa première carrière, la WWE, ça s'est un peu terminé sur un échec. Depuis qu'il est revenu, c'était pas gagné non plus. Mais là, voilà, sur les derniers mois, sur la dernière année, il a vraiment réussi à attraper l'amour du public, à faire la connexion. Et ça fait plaisir de voir un Golgoth comme ça, parce qu'il avait quand même tout pour être. On n'a jamais compris ce désamour trop du public envers Lashley.
Oui, sur le papier, c'est vrai qu'il a tout, sauf peut-être la promo qui est jamais exceptionnelle. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une petite vignette un peu plus tard après le match où il discute avec Cédric Alexander. Il lui dit, bon, c'est bien, t'as fait le bon choix, bonhomme, mais bon, maintenant c'est la dernière fois. Hein. Par contre, t'oublie pas, c'est la dernière fois que tu interviens dans un de mes matchs, hein, parce que sinon ça va mal se passer. Je trouvais ça assez sympa, mais tu sens quand même que. Ah, il y a un petit déficit de charisme, c'est un peu dommage, mais...
Ah, c'est pour ça que l'alliance avec MVP, c'était le meilleur choix. Hein.
Ah oui, oui.
MVP au micro, c'est quelque chose quand même. Et ouais, ben, on va voir le Bobby Lashley en solo, qu'est-ce que ça va donner. Alors peut-être une petite rivalité encore de transition avec Cédric Alexander. Ouais, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un peu bougé vers le haut, puisqu'il y a Roman Reigns étant un petit peu en balade de ci, de là. D'ailleurs, j'espère qu'il est vraiment en balade, hein, qu'il n'est pas une rechute ou quelque chose comme ça, hein, Roman Reigns, parce que...
Oui, en effet.
C'est quand même inquiétant, mais on va croiser les doigts. Voilà, en tout cas, Bobby Lashley conserve sa place de main eventer potentiel et de mec qui peut tranquillement tourner autour de la title picture avec un match très propre. Bon, Omos, malheureusement, pas trop d'évolution au niveau de son catch. Le passage quand même où il défonce Lashley à travers la barrière, il se permet de rester debout, quoi. Il tombe pas. On sent qu'il a pas envie de trop bumper. On sent que c'est pas simple pour lui. Il est quand même très grand. Hein,
Ouais,
très grand.
C'est particulier, quoi.
Ça donne pas forcément beaucoup de souplesse, beaucoup de ça. Il faut pas rêver non plus. On a eu quelques. Ben, c'est là que tu vois la particularité du Big Show d'un mec comme ça, tu vois.
Ouais, absolument.
C'est pas donné à tout le monde. Vraiment d'être à la fois grand comme ça et agile dans le ring. Donc ben voilà, on va lui laisser encore le bénéfice du doute un peu, mais bon, on voit bien qu'Omos, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Alors, on n'est pas à l'abri d'un règne de champion quand même d'Omos, sorti de nulle part, hein, comme le Great Khali à l'époque, quoi. Mais,
Ouais, ils sont capables de capitaliser. Alors, pour un titre suprême, je sais pas, mais...
Ouais, peut-être plus maintenant, parce que c'est vraiment bouché au niveau du titre suprême, hein. C'est accaparé par Roman Reigns. Mais voilà, un petit championnat US à un moment donné, peut-être, ou quelque chose comme ça. À voir s'ils ne vont pas s'en débarrasser aussi rapidement, parce que maintenant, c'est fini aussi, les contrats qui duraient.
Ouais, tout est possible.
Et puis dès qu'il y a un autre grand qui arrive, visiblement, ils font partir le grand qui était là. Hein. C'est bien pour ça qu'ils sont... ils ont laissé partir le bon Braun Strowman. Hein. Moi, c'est ça qui m'embête avec Omos, c'est que ils ont viré Braun Strowman à cause de lui, quoi, presque. Hein. C'est un peu dommage derrière de ne pas, pas avoir un mec qui évolue un petit peu dans le ring. Mais bon, en tout cas, voilà, bon, c'était beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. et on était très contents, même si moi j'avais pas trop de doutes. Bobby Lashley, MVP, ils savent booker des matchs. Hein. Ils ont suffisamment d'expérience. Encore une fois, hein, c'est là que tu vois l'intelligence de booker des mecs qui ont de l'expérience, en fait. Hein.
C'est ça, c'est qu'ils arrivent en fait à cacher un petit peu, faire un peu cache-misère sur les défauts et à bien mettre en valeur les forces de chacun. Voilà, donc là, elles n'étaient pas nombreuses, mais ils ont bien bien joué dessus. Et écoute, ça fait un petit match de milieu de pay-per-view qui est tout à fait regardable.
Bien placé en plus en deuxième match, donc comme ça. Très très bien. Bravo à tous. On enchaîne avec encore une petite rivalité de bas de carte, mais qui nous a fait bien marrer celle-là au fil des semaines. C'est Kevin Owens qui affronte Ezekiel. Le match a duré 9 minutes 20, donc il a duré plus longtemps que le match handicap d'avant. Ça commence très vite parce que Ezekiel profite que Kevin Owens est un petit peu enragé pour attaquer direct avec un running knee directement dans la face. Il grimpe tout de suite sur le poteau, il fait sa descente du coude à la Macho Man. Il a quasiment le match gagné, 1-2, mais non, Kevin Owens se dégage. Et après, c'est parti pour un match, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un joli déroulé de Kevin Owens, beaucoup de patates dans la gueule d'Ezekiel, hein, qui joue quand même la force. Hein, il va se manger le poteau à l'extérieur du ring quand même à un moment donné, hein, Kevin Owens, il sait y faire. Et ça continue comme ça, à toi, à moi, jusqu'à ce que Kevin Owens réussisse à piéger Ezekiel dans la pop-up powerbomb. 1, 2, 3, on ne se relève pas de la pop-up powerbomb. Victoire de Kevin Owens. Voilà, Ezekiel, le rookie, qui a sa place au pay-per-view, mais qui est obligé de s'incliner face au vétéran Kevin Owens. La vengeance de Kevin Owens, qui était devenu presque fou par cette histoire de Ezekiel, hein, on vous le rappelle, qui est le frère de Elias, à moins que ce ne soit vraiment Elias, on ne sait pas, Kevin Owens n'est pas convaincu, lui il pense que c'est vraiment Elias. On n'aura pas la réponse à cette histoire ce soir, on est toujours dans le doute. Mais en tout cas, Ezekiel ne réussit pas à s'imposer face à Kevin Owens. Alors toi comme moi, on avait pronostiqué une victoire de Kevin Owens, hein, on est un peu...
Ouais.
On n'est pas très content de ce résultat, mais est-ce que tu es content du match?
On avait pronostiqué une victoire d'Ezekiel, tu veux dire, mais oui, oui.
Oui, on avait pronostiqué Ezekiel,
ouais.
Pardon.
Ouais, 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 en effet, c'est mon faux pas de la session aussi. Raté, mais bon, pas mécontent de m'être trompé, on va dire, parce que je te cache pas que c'était un petit pronostic un peu à contre-cœur quand même. Ça me faisait un petit peu mal au cœur quand même de voir Kevin Owens perdre en pay-per-view contre Ezekiel, on va pas se mentir, même si j'aime beaucoup leur rivalité, moi ils me font mourir de rire. Venu le moment sérieux des mandales dans la tronche, il faut quand même arrêter de rigoler. C'est Kevin Owens, c'est quand même autre chose, quoi. D'ailleurs, la comparaison faisait un petit peu mal, hein, parce que c'est vrai que pendant tout le match, on a vu quand même les 3, 4, 5 classes d'écart qu'il y avait entre les deux. C'était assez flagrant, le déséquilibre. Ezekiel qui s'est plutôt bien battu. J'ai trouvé que le match, à la limite, était pas si mal écrit que ça pour lui, parce que voilà, ce hot run en début de match était assez sympa. Comme tu l'as dit, avant que ça se transforme en un match un petit peu plus classique, il y a eu voilà ces deux premières minutes un peu folles où il nous a quand même lâché quelques petits des coups de genoux sautés, et des petits mouvements en haut de la troisième corde, des trucs. Enfin, il était un peu fou là et c'était sympa à voir. Et puis après, on est rentré en effet dans quelque chose d'un petit peu plus classique où Kevin Owens a déroulé. Il y a eu une longue période de domination et puis après tu sentais que c'était vraiment lui qui portait le match et il gagne assez logiquement derrière. Alors moi j'ai pas vu le temps passer, j'étais assez surpris de voir que le match avait duré plus de 9 minutes. Encore une fois, pas du grand catch, mais j'ai trouvé à la manière du match précédent un match qui est bien écrit, bien travaillé et qui joue sur les forces de chacun sans mettre en difficulté aucun des deux. Kevin Owens, c'est pas compliqué, et puis voilà, on sent que ça doit être vraiment caviar de catcher avec un mec comme Kevin Owens qui peut vraiment tout faire.
Il y a une superbe moonsault, springboard moonsault là de la deuxième corde depuis le coin du ring. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu faire des trucs comme ça.
Ouais. Kevin Owens, donc c'est vrai que d'ailleurs il s'est un peu régalé, il nous a lâché toute sa palette, hein. Il nous a vraiment tout sorti. Et donc bon, après à la fin, je sais pas quoi en penser, parce que c'est vrai que autant j'ai adoré. Cette feud, moi, me régale hein, toutes les semaines. On en avait parlé avec Irem. C'est un petit peu ma fashion police revisitée. C'est le petit moment, le petit bonbon de l'émission que j'adore retrouver toutes les semaines. Et là, j'ai pas trop compris ce qu'il cherchait à faire. C'est-à-dire que c'était, bon, bah voilà, victoire de Kevin Owens, assez décisive. Ezekiel qui a réclamé quelques fois pendant le match, dis mon nom, tout ça. Il cherchait une sorte de validation que Kevin Owens a jamais voulu lui donner. Mais derrière, cette victoire nous apporte pas non plus énormément de choses. Donc, écoute, je sais pas comment est-ce qu'ils vont continuer cette histoire, parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Je sais pas quel est le nouvel angle qu'ils vont trouver, en tout cas pour poursuivre ce développement de personnage, hein, d'Ezekiel. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que ce match m'a bien fait marrer, cette feud m'a bien diverti. Contrat rempli, sans fioritures, sans exceptionnel, mais contrat rempli.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, prochain pay-per-view, enfin, ou Premium Live Event, comme on dit maintenant, c'est le Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas impossible qu'on les retrouve noyés dans le Money in the Bank.
Possible, voilà. En effet.
Moi, je pense qu'au final, tout ça, c'était quand même juste pour mettre Kevin Owens over un petit peu. Que ça se termine quand même sur lui en gros plan avec sa face de mec énervé. Voilà, pour nous rappeler qu'on peut le tourner en bourrique, on peut le faire tourner en bourrique, mais à la fin,
c'est sérieux,
quand même,
c'est
voilà, c'est pas impossible qu'il vous claque une pop-up power bomb et puis que ce soit fini pour vous.
Oui, c'est vrai.
Ezekiel, voilà, je pense qu'il sera là dans les weekly. Visiblement, il parie pas plus que ça sur lui. Ils ont l'air d'avoir compris que c'est pas non plus un mec sur lequel ils vont pouvoir miser plus que ça. Ce qui est plutôt rassurant, quelque part. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense... Parce que Kevin Owens, il sort quand même d'un main event de WrestleMania avec Steve Austin.
Steve Austin, quand même.
Donc, oui, maintenant, c'est... On le savait déjà depuis un moment qu'il comptait sur lui, etc. Je pense que lui, il va continuer à compter à la WWE dans les années qui viennent et qu'on va le revoir de temps à autre dans des grosses rivalités. Donc, voilà. Sur un pay-per-view comme ça, Ezekiel, ils en feront sûrement pas grand-chose derrière. Donc autant, quand c'est l'heure du Premium Live Event, faire un peu briller Kevin Owens, sur une rivalité comme ça, ça mange pas de pain. Hein. C'est ce que réclament souvent les Smark et compagnie, respecter nos catcheurs qui méritent. Ben voilà, Kevin Owens, il mérite.
C'est vrai, tu as raison. Tu vois, c'est un discours que j'avais pourtant tenu à l'époque avec Bobby Lashley face à Omos. Je disais, il faut arrêter d'essayer de voir quoi que ce soit dans les petits momentum d'Omos et tout, c'est avant tout pour faire briller Bobby Lashley. Je me suis sans doute fait outsmarté sur ce match à essayer de voir des choses qui en effet, je pense tu as sans doute raison. La finalité de cette feud, c'est avant tout Kevin Owens. Ouais.
Ezekiel champion 24/7 bientôt, puis voilà.
Voilà, exactement.
Encore une réussite ce petit match. Qui payait pas de mine. Alors, la grosse storyline de Monday Night Raw, toutes les semaines, hein, de Monday Night Raw et de Twitter aussi, hein, parce qu'on se demande qui sera le prochain. Le Judgment Day, le clan de Edge, où on retrouve Damian Priest et Rhea Ripley, affronte l'espèce de rip-off du Bullet Club, AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan, donc un 3 contre 3 mix. Hein, comme on dit, avec une grosse entrée quand même pour le Judgment Day. Hein. Ça claque
toujours,
quand même quand tu débarques. Des petits changements de costume un petit peu pour Rhea Ripley là, qui vient avec une petite touche de violet. Et donc, on a évidemment un gros match avec effectivement pas mal d'interactions entre Finn Balor et Damian Priest. Jay Styles, il s'occupe plutôt de Edge. En termes général, Edge qui est un petit peu en retrait quand même. C'est surtout Liv Morgan et Rhea Ripley un petit peu qui font le spectacle. Donc ça va dans tous les sens jusqu'à ce que Finn Balor réussisse à piéger Edge et après lui avoir séché avec ses coups habituels, son petit déroulé habituel. Il va monter sur le coin de la troisième corde pour tenter le coup de grâce. Il va être interrompu par Rhea Ripley qui va se placer devant Edge, donc Finn Balor va pas pouvoir exécuter son saut. Rhea Ripley va être mis hors circuit par Liv Morgan et Finn Balor va tenter du coup son coup de grâce, mais c'est trop tard. Edge va esquiver et il va lui placer son spear. 1, 2, 3, victoire du Judgment Day. un peu plus tôt dans le match, Edge avait déjà tenté le spear sur Finn Balor qu'il avait contré avec un petit paquet. C'était très joliment exécuté.
Oui.
Bon, il y avait tout qui était très joliment exécuté dans ce match. On a eu une
Liv Morgan
plutôt à l'aise.
Étrangement, oui.
Mmh. Ouais, bah elle, ça va, elle progresse de plus en plus. Rhea Ripley, c'est du solide. Après, il y a un truc qui m'a gêné. Je vais te donner la parole, hein, mais il y a un truc qui m'a gêné dans le match, c'est qu'à un moment donné, on n'avait plus que Rhea Ripley et Liv Morgan au milieu du ring.
Ouais.
Pendant un petit moment, et là, j'ai vraiment senti tout de suite que le public commençait à lâcher.
Moi aussi, d'ailleurs.
Ça n'a pas duré éternellement, mais après, ça a repris. Voilà, moi, je pense que ça, c'est les limites du mixte tag team match. Ouais. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas trop abuser. J'espère qu'ils n'en feront pas une habitude avec le Judgment Day. Mais sinon, bon, pour le reste, c'était quand même très propre, à mon avis. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. 16 minutes de match, hein, là-dessus.
Ouais, un long match. Mais écoute, non, c'était un bon match. C'était un bon match. Je suis assez content et assez rassuré, on va dire, de voir ce que donne ce trio dans le ring, que j'ai trouvé assez convaincant, parce que c'est vrai que j'ai pas été... Je m'en suis pas caché, j'ai pas été un grand fan jusqu'ici de ce qui se passe avec le Judgment Day.
Ouais, ça fait très écrit, hein, le Judgment Day.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que bon, l'arrivée de Rhea Ripley à Backlash, c'était très très sympa, c'était un beau moment. Les promos qui ont suivi pour moi ont été extrêmement décevantes parce que on avait du mal à voir l'intérêt du groupe, hormis d'attendre la prochaine arrivée, quoi. C'est-à-dire que hormis exister par juste pour au prochain qui va les rejoindre au prochain pay-per-view, on avait du mal à discerner vraiment les promos de Edge et du groupe étaient on ne peut plus plates et il y avait pas grand chose qui se passait encore dans le ring parce que forcément ils allaient pas lâcher leur premier match à 3 en weekly, donc il fallait patienter. Donc voilà, cette première apparition du trio dans le ring m'a bien convaincu. J'ai trouvé qu'il y avait une belle dynamique, Rhea Ripley toujours aussi convaincante. Moi, je trouve qu'elle est, vraiment top. Damian Priest commence à me convaincre petit à petit. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant et en tout cas solo, j'ai du mal. Mais là, dans un trio comme ça, je trouve qu'il est pas inintéressant. Bon, Edge toujours, toujours impeccable, toujours un plaisir à suivre. Même s'il a pas fait grand chose, c'est vrai que tu t'en as parlé. Il a été assez en retrait dans ce match. Ouais. Et c'est autre chose d'ailleurs que j'ai plutôt bien apprécié. Mmh. C'était que jusqu'ici, il y en avait que pour Edge, hein, d'une certaine manière. Hein. C'était son groupe, c'était un peu son histoire. Et alors, son histoire, après, pauvre histoire, mais en tout cas, il essayait de nous raconter quelque chose de son côté en weekly. Mais donc voilà, en fait, de toute façon, tout le match était vraiment orienté, hein, pour nous faire découvrir ce trio. Et je trouve que en ce sens, le match a plutôt bien fonctionné. Liv Morgan, perso, moi, elle progresse, hein, mais c'est vraiment pas ma cam du tout. Et en effet, si on pouvait stopper, bon, on a compris, hein, voilà, qu'elle était triste, elle s'était fait trahir par Rhea Ripley. Bon. Entre-temps, elle s'est fait coucher une fois déjà. Si ça pouvait se terminer, ce serait bien. Et en effet, comme tu l'as dit, le temps mort du match, c'est le moment où elles se sont retrouvées toutes les deux dans le ring parce qu'on s'en fout un petit peu, quoi. Enfin, c'est terminé. On l'a déjà trop vu, c'est fini, donc arrêtez. Donc je pense qu'ils auraient pu se passer de ce petit moment-là, mais bon, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans un match quand même d'un gros quart d'heure qui a été très très qualitatif. Et autre point positif, après je m'arrêterai là, hormis voilà, cette dynamique de trio, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas eu forcément un nouveau coup de théâtre, un nouveau, une nouvelle arrivée, un nouveau cliffhanger de malade. Je pense que c'était bien que ce pay-per-view soit vraiment focalisé sur l'aspect vraiment catchesque de la faction, qu'on découvre un petit peu leur style à trois, qu'ils aient une victoire vraiment décisive, bien propre dans leur style à eux, avec des petites tricheries, des jeux, des mind games et tout, c'est bien. Et pas qu'il y ait une nouvelle encore arrivée, parce qu'après ça devient un peu pavlovien, c'est-à-dire que tu vas t'attendre quasiment tout le temps à ce qu'il se passe un truc comme ça, et tu casses un petit peu, je trouve, la fantaisie, la surprise qu'il pourrait y avoir si peut-être dans même pas dans le prochain, peut-être dans deux pay-per-view, tu vois, il y a une nouvelle arrivée. Je pense qu'il gagnerait justement à arrêter de mettre un petit peu le focus sur qui va les rejoindre, parce que finalement tout le monde ne parle que de ça, et je trouve que ça perd un peu, ça siphonne un petit peu l'énergie ou le storytelling qu'il pourrait y avoir autour de l'équipe, donc j'étais pas mécontent de ça non plus.
Exactement, ouais, c'est vrai que c'est pareil, c'est la frustration, mais finalement pas tant que ça, du fan de base, du Smark, hein, qui attendait la trahison de Finn Bálor ou l'arrivée d'un catcheur mystère. Bah voilà, on l'a pas eu, et puis il faut remarquer qu'effectivement ça manque pas, hein, et ce qu'il fallait effectivement dans ce pay-per-view, c'était la victoire du Judgment Day, surtout le point,
c'est ça le message,
le point culminant. Même si, comme tu dis, Edge a été sauvé par ses comparses, quelque part c'est la logique du truc aussi, puisque Edge, comme tu dis, c'est le vieil ours, et derrière c'est les jeunes qui doivent faire le boulot.
Ah oui.
De toute façon, c'est tout l'intérêt du Judgment Day, hein. C'est pour que Edge y catche pas trop, il faut le ménager, Edge, de toute façon. Donc t'as Damian Priest qui est quand même plutôt convaincant dans le ring, hein, dans les rookies qui sont arrivés ces dernières années, c'est quand même un mec qui a prouvé
un sacré gabarit, hein.
Ouais. Voilà, qui savait faire le spectacle. Je sais pas si t'as trop suivi son arrivée, parce que ça s'est quand même beaucoup passé pendant le...
Bah pas trop, non, je t'avoue.
Etc. Mais il a déjà fait déjà de très belles prestations, Damian Priest, il a convaincu plusieurs fois. Ils sont un peu envoyés dans le mur quand ils ont décidé de faire le Damian Priest qui était un peu schizophrène, là. Voilà, ça c'était très mauvais, mais ça a balisé le terrain pour lui faire intégrer le Judgment Day. Donc maintenant on comprend un petit peu a posteriori. Mais voilà, ça c'est un talent de toute façon, Damian Priest, qui est là pour rester un bon moment, et pareil pour Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est un projet de longue haleine, donc c'est deux qui sont amenés à briller dans le futur, et qui sont dans une très bonne position là pour être dans un clan dominant, dirigé par un Hall of Famer, hein, tout simplement. Et donc on va continuer grâce à ça à avoir des grosses affiches avec Edge. Et le coup de qui va intégrer quoi, le teasing par Twitter, c'est que un élément de l'intérêt de ce clan. Hein. Faut pas, comme
ça, faut pas que ce soit tout.
Le point focal. Donc là, c'était très intelligent. Et comme ça, ça garde des munitions pour la suite. Si vraiment il y a quelqu'un qui intègre le clan.
Ah oui, parce que sinon, je peux te dire. Enfin, moi, c'était un petit peu ma crainte il y a deux trois semaines, là, quand je les ai vus. Commencer à faire ses promos un peu de marchand de tapis là, et à tweeter à tout va des photos, je me suis dit pour ça, dans 4 mois c'est terminé, hein, ce groupe, oui. Parce que si jamais t'as une arrivée tous les pay-per-view ou toutes les 3 semaines, et que derrière il passe son temps à dire au micro à Raw que tout le monde est gros et que vous êtes des cons, ça va pas être long, hein, tout Edge qu'il est.
Ouais.
Voilà, je suis rassuré, on va dire.
On a vu ce que ça donnait avec Rétribution, hein, ce genre de traitement.
Ouais, exactement.
Ça va pas bien loin. Donc voilà, victoire du Judgment Day, pas de trahison. C'est Finn Bálor qui prend le pin, il a l'habitude maintenant. J'espère que, par contre, dans le futur, cette alliance-là, AJ Styles, Finn Bálor, Liv Morgan, on arrête là, quoi. Hein.
C'était de circonstances.
En solo, voilà. Bon, je pense que pour AJ Styles, c'était bien aussi de... Il commence à fatiguer, je pense, aussi, physiquement, AJ Styles. C'est bien de le mettre dans des trucs où il n'est pas obligé de...
Non, mais c'était sympa. C'était une association de circonstances qui était sympa, voilà. Avec le petit clin d'œil entre les deux, Finn Bálor et AJ Styles. C'était sympa de les voir ensemble, avec le petit tout sweet et tout pendant le build du match. C'est des petits clins d'œil sympas. Ça donne des matchs de pay-per-view qui sont cool, mais ça doit rester des one-shots.
Ouais, exactement. Donc voilà, refaites les parties en solo. Il y a des trucs à faire avec ces deux-là encore. Il y a de quoi occuper l'antenne. Le Judgment Day, la suite au prochain numéro. Allez, on va partir sur un match qui avait été rajouté à la dernière minute à SmackDown, qu'on n'a pas pu pronostiquer, du moins à l'antenne, pour le gros pré-show. C'est la conclusion de la rivalité sanglante entre Madcap Moss et Happy Corbin. On vous rappelle qu'Happy Corbin avait envoyé Madcap Moss à l'hôpital, alors que Madcap Moss était le protégé, hein, d'Happy Corbin pendant longtemps. Il lui a brisé la nuque avec un coup de chaise, hein, et puis surtout il a détruit le trophée André le Géant, puisque Madcap Moss a gagné la bataille d'André le Géant, dans la semaine WrestleMania. C'est lui le nouveau détenteur du trophée qui avait été détenu en son temps par Happy Corbin lui-même. Et donc ce soir, on a un match no holds barred, tout est permis entre Madcap Moss et Corbin. Quand tout est permis, on va tout se permettre. Hein. Il y aura des coups de chaise, des coups d'escalier, on va passer sur la table des commentateurs. C'est Madcap Moss qui prend avantage en début de match. Mais bon, au bout d'un moment, effectivement, la Happy Corbin, il réussit à rentrer dans la partie. Il va y avoir des grosses démonstrations de force d'un côté comme de l'autre. Et ça va se terminer quand Madcap Moss va défoncer à coup de chaise Happy Corbin, lui placer la chaise autour de cou, de la même manière qu'avait fait Happy Corbin avec lui des semaines précédentes. Et surtout, il va prendre l'escalier de fer pour écraser la chaise, plier les cervicales d'Happy Corbin. 1, 2, 3, Happy Corbin ne se relèvera pas de tout ça. Et c'est donc la grosse victoire de Madcap Moss après un match quand même assez spectaculaire. Alors ça, c'était le match de vilain petit canard de la carte.
Ouais.
Tout le monde a craché dessus un petit peu, des commentateurs de tous bords. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce Madcap Moss babyface?
Bon, j'en pense pas grand-chose de ce Madcap Moss babyface, enfin pas grand-chose de transcendant. Néanmoins, je cracherai pas du tout sur le match personnellement. J'ai trouvé ce match très sympa, très sympa. Alors encore une fois, j'espère que nos auditeurs, sauront. C'est toute chose égale par ailleurs, mais en tout cas dans ce pay-per-view, écoute, j'ai trouvé ce match très sympa. Qui encore une fois cochait toutes les bonnes cases. Autant j'avais été très critique, très critique. Encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, parce que ça reste de la low card. Mais j'avais été assez critique lors de Backlash de leur premier match. Et j'avais été critique pourquoi ? Parce que j'avais trouvé que c'était surtout pour Madcap Moss en fait. Je trouvais que c'était très dommage quand on avait l'opportunité, on va dire, d'avoir 10 minutes en pay-per-view, d'en faire si peu. Et je trouvais qu'il avait été extrêmement quelconque lors de son premier match. Alors là, c'était pas Shawn Michaels. Oui, mais c'est-à-dire, tu vois, voilà, dis bon, tu regardes le match, tu t'éteins le pay-per-view, tu dis est-ce que tu te souviens d'un truc de Madcap Moss, est-ce que tu sais maintenant définir quel est le moveset de Madcap Moss. Bon, je dis pas que j'ai répondu à toutes ces questions-là lors de ce match, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus intense, beaucoup plus dense dans sa prestation. Il était pas inintéressant, beau physique, belle gueule, très costaud, très costaud, très plutôt un bon mix de rapidité, de puissance. Alors la stipulation aide beaucoup, et c'est sûr qu'il y aura pas des no holds barred toutes les semaines. C'est un peu une critique d'ailleurs que j'avais évoquée quand on avait pu parler du match de Charlotte et Ronda Rousey à l'époque où on disait ouais c'est super. Le problème c'est que Ronda Rousey elle sera pas tout le temps dans des quit match, elle sera pas tout le temps avec Charlotte Flair. Là Madcap Moss c'est sûr que c'est ça qui me fait un peu peur, c'est-à-dire qu'il aura pas toujours des chaises, des kendo sticks, des machins, des rambardes, des trucs pour pouvoir cacher le fait que ça reste pas non plus un catcheur d'exception. Mais toujours est-il que il nous a fait plutôt un beau no holds barred match, j'ai trouvé. C'était très intense. Et c'est d'ailleurs un peu à l'image de... J'anticipe presque sur la conclusion un peu de ce pay-per-view, où j'ai trouvé que pendant tout le build-up de Hell in a Cell, à aucun moment j'ai eu l'impression qu'on allait vers Hell in a Cell. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup, j'ai trouvé, de feux très sanglants, d'intensité, de grosses rivalités très vénères. Écoute, là, tu vois, sur un match comme ça, je me dis, j'avais l'impression d'être dans un pay-per-view sérieux, où les deux avaient vraiment envie de se défoncer la tronche, et j'ai trouvé que Madcap Moss, dans ce registre-là, avait été plutôt très convaincant, le baron, Happy Corbin, lui a bien servi la soupe, on va dire, en briscard qu'il commence à être, parce qu'il commence il commence à avoir quelques années sous le capot. Mais en vieux briscard qu'il était, il lui a plutôt bien servi la soupe et Madcap Moss gagne logiquement. Donc derrière, je sais pas, franchement, je suis pas très très optimiste sur ce qu'il fera plus tard Madcap Moss. Mais en tout cas, je sors du pay-per-view et je retiens déjà un petit peu plus de bons souvenirs et de bonnes images de Madcap Moss que j'ai pu en avoir après Backlash. Et ça, pour moi, c'est quand même beaucoup plus positif le concernant, quoi.
Ouais. Écoute, moi, je suis curieux de voir la note de Dave Meltzer sur ce match-là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi. C'était
un... Je trouve ça très sympa à suivre.
Ouais, un No Holds Barred comme on aime. J'ai trouvé Madcap Moss bien explosif dans le ring. J'ai l'impression, moi, quand même, que le. Par contre, la stipu No Holds Barred, c'est peut-être plus pour protéger Happy Corbin que Madcap Moss.
Oui, Corbin... alors c'est sûr que Baron Corbin n'est pas un habitué des 5 étoiles non plus. Hein. Mais
c'est
oui,
pas
oui.
Daniel Bryan, hein, on est d'accord. Et justement, sur un match de fin de rivalité comme ça, il faut lever le niveau un peu plus. Et je ne sais pas si Corbin, sur un match simple, il a la possibilité
de lever
le truc. Donc autant passer par le No Holds Barred. Moi, Madcap Moss, il m'impressionne de plus en plus. Je vais garder un œil sur lui. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a...
Et puis là, il a, contrairement à Omos, évidemment, hein, mais oui. même Ezekiel ou d'autres, il a eu un certain charisme au micro qui est pas encore un peu brut, mais qui est pas inintéressant.
Ouais.
Donc à voir.
Et il a le physique, il a la gueule. Voilà, ça peut notamment séduire le public féminin. Je pense qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose avec lui, c'est pas pour rien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quand même enchaîné des gimmicks bien pourris. Ça, généralement, ça vient pas de nulle part, ça veut dire qu'ils savent pas trop quoi faire avec sa personnalité.
Ouais. Et sans doute que peut-être qu'il propose pas non plus des trucs incroyables. Voilà. Ça, c'est sûr que ça va peut-être être un petit sujet, quoi.
Ouais. Il avait un peu brillé à NXT au début en tag team avec je sais plus comment il s'appelait là, un autre aussi un peu musclé comme ça, Tino Sabatelli, je crois.
Oui.
Ça fonctionnait plutôt bien. Bon, après Sabatelli s'est blessé, je crois qu'ils ont dû se séparer de lui. Il était revenu avec une espèce de gimmick de mec qui fait de la muscu avec des boissons protéinées comme ça. C'était vraiment très très mauvais. On l'avait vu qu'une ou deux fois à l'écran. Puis après, finalement, il était quand même monté dans le roster. Et puis, ça avait galéré un petit peu avec ce passage entre T47, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il revienne avec Madcap Moss. Et honnêtement, si tu arrives à survivre d'une gimmick Madcap Moss, tu peux survivre quasiment à tout. Hein. Donc maintenant, à voir, parce qu'il part en mode babyface. Donc ça, ça reste toujours hyper casse-gueule à la WWE, du moins ces dernières années. À voir s'ils ont commencé à tirer les leçons du booking. Hein, comment réussir à booker un bon babyface. On verra avec les semaines qui viennent. Mais je vais garder un œil sur Madcap Moss. Et franchement, j'étais vraiment très, 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 très agréablement surpris par ce match. Qui était vraiment bien rythmé, avec quelques passages bien spectaculaires, bien bourrins.
C'est sûr que ouais, si on devait comparer sur chaque match ce que j'attendais par rapport à ce que j'ai eu, c'est la très bonne surprise de ce pay-per-view, moi me concernant aussi. Et je pense que, comme tu dis, les prochaines semaines vont être assez déterminantes parce que ça va être un peu qui tout double hein, pour lui. Hein, c'est-à-dire que là, la WWE lui a donné une opportunité. Maintenant, à toi de jouer, garçon. Tu as eu une feu de solo en pay-per-view que tu as gagné avec un turn. Maintenant, ça dépendra que de lui, en fait, hein, s'il arrive à transformer l'essai ou pas. On dit souvent, oui, on leur donne des matériaux de merde ou des trucs comme ça et tout. Ouais, mais bon, n'empêche que là, maintenant, ça va être quand même à lui d'aller se chercher un nouveau positionnement, une connexion avec le public. Personne ne pourra le faire à sa place. Donc là, ça va vraiment être assez déterminant. Écoute, on va voir, comme tu dis, hein, il a du potentiel sur le papier.
Et puis en parallèle, ça, je trouve que ça a remis un petit peu sur la carte la Pete Corbin. Qui est lui qui a le souci d'être surexposé, quoi. C'est surtout ça le problème avec Corbin, c'est qu'il est là toutes les semaines, il fait du bon comme du mauvais. Généralement, alors quand même, quand on lui donne une place en pay-per-view, c'est rare que ce soit mauvais, hein, quand même, Corbin.
Oui, c'est ça, en fait.
En weekly, il peut être fatigant, mais généralement, quand on est sur une grosse rivalité et que c'est l'heure de faire un gros match, généralement, il répond présent, hein.
Ouais, c'est ça. Ça va être un peu monsieur 3 étoiles à la WWE. Tu sais, ça va être toujours. Tu sais toujours ce que tu vas avoir avec Baron Corbin. T'auras jamais un truc de fou, mais tu sais qu'il se plante quand même rarement. Moi, je l'ai toujours bien aimé, tout son Baron Corbin, et cette rivalité confirme la sympathie que j'ai pour lui. Et je pense, à mon avis, l'aspect précieux qu'il a dans un roster aussi, d'avoir des mecs comme ça qui sont. Voilà, des valeurs sûres, des bons heals. Ça reste un bon heal.
Ouais, c'est un très bon boulot de heal à se mettre.
Ouais,
il faisait mine de sortir la table et il a parce que le public réclamait à corps et à cri les tables, parce qu'on était dans le World Bard, et il a refusé au public et il s'est pris des broncas.
C'est un bon heal et ça, c'est important. Et donc, voilà, il sera toujours utile. Et tu vois, contrairement à Ezekiel, Kevin Owens, ça aurait fait un petit peu de mal quand même que Kevin Owens perde un match comme ça, même si ça aurait pu, pourquoi pas, tu vois, pour donner un petit tremplin à Ezekiel. Là, lui, par contre, tu vois, Baron Corbin, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut assez facilement le faire perdre. Et je pense que c'est pas un problème. Sa place dans le roster est tellement bien cémentée, on va dire, dans le milieu de carte que du coup, il n'y a pas de souci, quoi.
Exactement. Écoute, bonne pioche hein, pour ces deux-là, les mal aimés hein, du roster et de la carte. Mais moi, je les félicite tous les deux, l'un comme l'autre. J'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon match. On enchaîne avec le semi-main event, presque en tout cas quelque chose qui est quasiment historique. Maintenant, une défense de titre intermédiaire en premium live event. Le champion US, Theory, qui affronte Mustafa Ali. Mustafa Ali qui a réussi à avoir un match hein, après avoir battu comment s'appelle-t-il Ciampa par disqualification via les interventions de Theory. Il a perdu son premier title shot le même soir parce que Theory a dit tiens je t'offre ton match mais ce soir tout de suite. Et finalement c'est Vince McMahon, impressionné quand même par Theory et sa manière de gérer la psychologie dans cette histoire. Son petit côté machiavélique, c'est quand même Vince McMahon qui a imposé un nouveau match entre Mustafa Ali et Theory à Chicago. Mustafa Ali joue à domicile et grosse pop hein, en débarquant.
Ah oui, très grosse pop.
L'enfant du pays, 10 minutes 25 de match qui va à 100 à l'heure aussi, avec des jolies démonstrations de Mustafa Ali qui envoie des kicks à la volée dans tous les sens, des contres en veux-tu en voilà. Il a vraiment l'avantage sur Theory pendant un bon moment. Theory quand même qui va réussir à placer quelques moves impressionnants, notamment un springboard de Spanish Fly là, out of nowhere, assez impressionnant d'un côté comme de l'autre. Hein, ça donne vraiment des gros moments. Pas mal de near fall mais quand même la victoire de Theory qui réussit à éviter un 450 de Mustafa Ali depuis le coin du ring. Il va en profiter pour placer un bon coup d'épaule dans le genou de Mustafa Ali qui aura bien du mal à se relever. Il va le piéger dans son finisher et ce sera la victoire de Theory, évidemment la défaite à domicile de Ali après un beau losing effort. Alors s'il y a bien un mec qui a le droit de se plaindre de son traitement, c'est bien Mustafa Ali. On s'attendait à un show stealer pour ce match. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce que c'était au moins un bon match? Dis-nous tout, Giscard.
Ouais, je te cache pas, c'est un peu ma. Je suis pas, j'ai pas été très convaincu, mais en même temps, je sais pas si je suis très très honnête sur ce match parce que je pense que je l'ai pas regardé avec tout l'intérêt qu'il méritait ce match-là, mais c'est en même temps la WWE qui a fait en sorte aussi que je le regarde pas avec les bonnes lunettes. Ouais, alors exactement. Déjà, je pense qu'il était très très mal placé ce match. Je pense que c'est une petite erreur de booking pour le coup de le mettre en avant-dernier sur la carte. Ça aurait pu être un bon opener, je pense, ce match-là. Il aurait peut-être eu plus, il aurait sans doute eu plus mon attention et l'attention générale, je pense, parce que sortie de l'entrée de Mustafa Ali, qui voilà a eu la pop qu'il méritait parce qu'il vient du coin, il avait mis le Falzar qui allait bien et il y avait marqué Chicago sur son t-shirt, donc du coup tout le monde était content. Le problème, c'est que voilà, la WWE fait tellement, prend tellement de soin presque à n'en avoir rien à foutre de la ceinture US que, bah écoute, moi je suis un bon élève, je suis discipliné, bah du coup moi aussi j'en ai rien à foutre. Et c'est vrai que c'est vrai que fatalement, je me suis un peu fait chier. Et c'est pas de leur faute. Alors si, d'une certaine manière c'est de leur faute hein, parce qu'écoute, tant pis pour eux. Hein, il faut qu'ils arrivent aussi à Il faut qu'ils arrivent à transcender un petit peu tout ça, mais
alors,
en tout cas, c'était difficile. Hein. Ça partait de loin.
Donc voilà, je pense pas que j'ai un avis qui soit très fair, on va dire, très juste sur ce match, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans parce qu'on n'a rien fait pour me faire rentrer dedans. Théorie, c'est bon, Mustapha Ali, moi c'est quelqu'un vraiment qui est très très fade pour moi. J'ai jamais réussi vraiment à adhérer à son personnage, donc sans surprise de ce côté-là. Et Théorie, par contre, j'aime bien l'idée, le côté Golden Boy. Alors, c'est pas du tout inédit. Hein. Vince McMahon a déjà fait ça plusieurs fois par le passé, mais j'aime bien le délire. Je trouve que c'est une bonne base pour un personnage de heel jeune comme ça. Il me fait un peu penser à un petit Dolph Ziggler ou. J'ai une vibe que j'aime bien avec Austin Theory. Enfin, maintenant on dit même Theory seulement. Et je suis presque déçu en fait de voir tout ça parce que j'aimerais bien qu'il soit plus exposé, tu vois. Mais bon, écoute, pour l'instant, la WWE a pas l'air d'avoir envie de mettre vraiment l'accélérateur ni sur lui ni sur le titre US. Donc, écoute, tant que ça restera comme ça. Je pense pas que je m'enflammerai spécialement pour les matchs de théorie, mais voilà. Écoute, petite déception sur cette carte, mais déception de laquelle j'attendais de toute manière pas grand chose.
Ouais, tu faisais pas partie de ceux qui attendaient le show stealer de la soirée avec ce.
Non, pas du tout.
Ce match-là qui était quand même qualitativement très bon. Hein. Il y a eu pas mal de near fall, quelques gros moves spectateur. C'est quand même deux très 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 bons catchers ces deux-là. Mustapha Ali, pour moi, c'est du niveau d'un. Alors, ça va te faire rigoler, mais techniquement, c'est du niveau d'un Ricochet ou d'un Will Ospreay ou des choses comme ça. C'est-à-dire, ça peut faire des moves vraiment, vraiment spectaculaires.
Alors, c'est vrai que c'est pas ma cam, moi, mais ouais.
On est plus dans du côté de Neuville, des champs comme ça, quoi. Et théorie, c'est l'avenir, hein, de toute façon. Et le fait que ça brille pas ce soir autant qu'on l'aurait souhaité. Ça, je pense que c'est quand même symptomatique des soucis de la WWE.
Ouais.
Voilà, hein, tu as un booking qui a été mal fait, une rivalité qui a été mal montée à la va-vite, pas assez d'exposition à l'écran, rien de spécial qui nous a fait nous intéresser à tout ça. Forcément, ça handicape le match et c'est bien dommage. Alors voilà, les gens râlent beaucoup en disant que la WWE c'est devenu nul, ils savent plus quoi faire, gna gna gna. Là pour moi, ça c'est un exemple des problèmes que t'as dans le booking des weekly quand tu passes à côté de la ceinture US. Hein, comme tu dis, ils ont l'air de pas en avoir grand chose à faire. C'est d'autant plus dommage qu'ils ont Theory qui est champion et que pour moi, Theory, il faut quand même commencer à le construire dès maintenant.
Bah oui.
Quelque part, ça fait sens qu'ils battent Mustapha Ali, mais c'est quand même dommage de passer aussi à côté du talent de Mustapha Ali, que toi tu trouves fade. Moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel aussi. Il est plutôt bon au micro, etc. Je pense que vraiment, lui, pour le coup, même quand on lui a donné des trucs, on lui a scié les pattes derrière. Je veux dire, le booking de rétribution, c'était quand même catastrophique. Je vois pas comment il aurait pu s'en sortir d'une manière ou d'une autre, à moins de que même en menaçant de démissionner ou je sais pas quoi, pour lui ça aurait jamais fonctionné, un coup de pression envers la WWE. Donc je pense
non, c'est sûr.
Vraiment pour lui, comme je disais, s'il y en a bien un qui a le droit de se plaindre, je pense que c'est lui. parce que vu son talent entre les cordes, il a quand même une maîtrise du micro qui est pas mauvaise. Moi, je l'ai suivi aussi à 205 Live. Il faisait des petites vidéos et des trucs comme ça, très, très originales. Tu sentais que le mec était investi quand même et qu'il y avait de la créativité derrière. Et là, je pense que vraiment, sur lui, je pense qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose. Même si physiquement, effectivement, il ne tient pas la comparaison contre des grosses stars. Mais je pense que si tu le laisses dérouler une ou deux fois dans des matchs, il fait des choses stealer assez régulièrement, quoi. Et là, je pense qu'on aurait pu aussi ici avoir un match vraiment très très spectaculaire. Il y avait des gros mouvements, hein. c'était très bien rythmé, c'était au niveau de la psychologie, c'était quand même bien foutu. La victoire, elle est arrivée vraiment avec Theory qui l'arrache vraiment en faisant quasiment un coup bas. Ça positionne quand même Theory comme quelqu'un de costaud, donc c'est dans l'absolu c'est pas mal, mais je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux à tirer de tout ça.
Sans doute.
Ouais. C'est effectivement le petit point noir de ce match qui était quand même très bon. Hein. Faut pas pas non plus déconner, mais là c'est vraiment le booking et l'emballage autour qui pose problème.
Oui, c'est ça, c'est pour ça, pour ça quand je dis hein, que j'ai pas trop aimé, j'ai pas la prétention de dire que c'était un mauvais match, mais c'est...
Ah, difficilement dire c'est, ça.
C'est... Ouais, ouais, c'est vrai que moi je suis un peu... Je regarde la WWE de manière assez simple. Hein. C'est je m'intéresse aux choses auxquelles on m'a donné envie de m'intéresser. et c'est vrai que là, écoute, c'est
vrai que t'es pas le genre à extrapoler sur qu'est-ce qui aurait pu se passer, quoi. C'est
non.
Tu es juste sur pièce, on va dire.
Et voilà, exactement. Je suis sur pièce.
C'est toi qui vas refaire leur booking et t'as pas une fédération fantasmée dans ta tête.
Non. Non, pas du
tout. Voilà. Donc, bah, en tout cas, on a eu une défense du titre US avec un match tout à fait respectable ce soir. On espère que ça redeviendra la norme. Je dirais quand même qu'on a une bonne formule hein, pour ce pay-per-view, pas trop long.
Oui.
Cet match, c'est très bien. Une défense de titre intermédiaire, c'est très bien. Et surtout, un gros main event.
Un
main event qui est, va quand même se placer comme un moment historique, hein, je pense, parce que donc on a un match qui oppose dans le Hell in a Cell, dans l'enfer de la cage, Cody Rhodes, le nouveau top babyface de la WWE, l'enfant prodige hein, qui est revenu à WrestleMania après son passage chez les indépendants et surtout la création de la All Elite Wrestling. Il est de retour, il est 100% WWE et il est en rivalité depuis WrestleMania avec Seth Rollins. Il a battu déjà deux fois Seth Rollins et cette fois-ci, on va régler les comptes dans la cage pour la DRDDR. Seth Rollins qui débarque avec un costume qui est une insulte, on va dire, directement, et une référence au père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, qui débarque avec un t-shirt et un pantalon avec les polka dots, comme on dit, des gros points jaunes sur fond noir, gros points jaunes sur fond noir, et il prend le déhanché de Dusty Rhodes, hein, de l'American Dream, pour arriver au ring. Alors c'est aussi excellent parce qu'il débarque dans sa cape, là, à plume, et puis il se dévoile comme ça, c'est vraiment toute l'intelligence de Seth Rollins, là, pour le coup.
Mais il est fort, il est très très fort.
Il est très très fort, et c'est un magnifique méchant, Seth Rollins, on adore le détester. Et derrière, l'entrée de Cody Rhodes, et la nouvelle est tombée dans la journée, on l'a annoncé aussi hein, par les commentateurs pendant le show, il se trouve que Cody Rhodes est blessé, il a une déchirure, des tendons, des muscles...
du pectoral droit.
Voilà, pectoral droit.
Il a le pec qui s'est détaché apparemment de l'os, le tendon. Ouais.
Voilà, le tendon s'est détaché de l'os. Alors normalement, c'est une blessure qui demande d'être incapacité pendant plusieurs semaines.
Ah bah, c'est ce que je lisais, c'était apparemment, c'est normalement opération et 6 à 8 mois...
D'absence.
Alors 6 à 8 mois, c'est pronostic plutôt haut, mais ouais, enfin c'est une grosse blessure quoi.
Alors c'est assez inhabituel qu'on nous balance qu'un catcheur est blessé comme ça avant qu'il démarre le match. Mais c'est difficile de faire autrement parce que quand Cody Rhodes débarque, il a un hématome qui lui prend tout le bras droit et toute la poitrine hein, quasiment, du moins tout le pectoral droit, quand on parle français donc c'est difficile de le cacher évidemment hein. Il a la moitié du corps violet et puis visiblement il a beaucoup de mal à bouger le bras droit c'est ce qui est étonnant, c'est que non, Cody Rhodes ne va pas se coucher. Il va catcher dans la cage face à Seth Rollins. Alors, il va être pas mal handicapé. Hein, parce que très rapidement dans le match, il va réussir à placer son cutty cutter. C'est comme ça que ça s'appelle ?
Oui, absolument.
Son springboard cutter, là, sur Rollins. Mais il va pas pouvoir capitaliser dessus parce que ça lui fait mal au bras, forcément. Et là, tout le match va le continuer dessus avec un Seth Rollins qui, lui, ça lui va bien hein, d'avoir un mec qui est diminué puisqu'il va s'acharner à attaquer Cody sur ce point faible, là, à coup de kendo stick, à coup de table. Il sort même la petite trousse de technicien à un moment donné. Il va y avoir les chaises, surtout les tables, pardon, réclamées à corps et à cri par le public, au tel point qu'il va même y avoir un chant « Thank you Rollins » pour la sortie de la table. Les gens la voulaient. Il va y avoir... Alors, c'est Rollins qui met une powerbomb à Cody Rhodes à travers la table. C'est ça, hein. Ça suffira pas à coucher Cody Rhodes. Il va y avoir des... Alors, on va mettre des... Comment ça s'appelle son finish à Cody Rhodes ?
Le Crossroads.
Le Crossroads, voilà. Ça va être récupéré par Rollins, qui va essayer de faire le tomber avec ça. Ça marche pas. On va tenter des pedigrees. On va même mettre un stomp sur la gueule de Cody Rhodes qui remonte dans le ring. Tout ça ne suffira pas. On va même sortir le sledgehammer. On va sortir la... alors, comment qu'on appelle Bullrop
Ah oui, c'est une bullrop, c'est bull ça, rope, c'est une corde pour les taureaux avec la cloche, ouais, c'est ça.
Voilà, qui a fait la renommée de son père, il a fait beaucoup de matchs exactement. Avec cette stipulation-là, ouais. Où on s'attache d'un côté comme de l'autre.
Texas Deathmatch bullrop, je sais pas quoi. Là.
Voilà, exactement, donc ça, chacun s'attache un bras, et puis, enfin un poignet, et puis on se fout sur la gueule en utilisant la cloche qui est au milieu de la corde. C'est assez folklorique, ça va être utilisé au milieu du match. Ça va se terminer par quoi? Un enchaînement de Crossroads, de Cody Rhodes.
Ouais. Et... deux Crossroads, et au lieu de faire le troisième, il décide de prendre le Sledgehammer.
Ah oui, le Sledgehammer, c'est ça, l'histoire du Sledgehammer. Et il va assommer Seth Rollins avec le Sledgehammer en hommage à Triple H, hommage à Triple H, hommage à Dusty Rhodes, et victoire de Cody Rhodes, malgré la douleur, malgré la souffrance. Il va expliquer après le match, hein, très rapidement auprès du public, parce que visiblement, il est quand même très très en souffrance, que personne ne l'a forcé à venir catcher. C'est lui qui a décidé de venir, malgré la blessure, qu'on pouvait difficilement l'en empêcher, j'ai bien l'impression. Donc là-dessus, il y aura débat de savoir est-ce qu'il fallait qu'il vienne catcher, est-ce qu'il aurait dû rester à la maison. En tout cas, ça a donné un match à l'atmosphère absolument épique, avec un Cody Rhodes qui était là pour vaincre la douleur et qui a réussi à triompher du maître chacal en chef, là, Seth Rollins, qui n'a pas du tout ménagé pendant le match. J'ai l'impression quand même qu'on a vécu un match historique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon bon Giscal, mais moi j'étais
à fond dedans.
Du début à la fin. Ça fait longtemps que je n'avais pas vécu un match comme ça. Hein.
Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'avais écrit un peu à chaud sur le Discord. Et, enfin, d'ailleurs, à chaud, c'est toujours à chaud, hein, parce qu'on enregistre, je pense que tous les deux, on vient de voir le pay-per-view il y a quelques heures. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est...
Quand la réalité rejoint la fiction, là.
Ouais, j'ai pas mémoire en fait d'avoir été autant happé par un match de catch depuis je sais pas quand en fait. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça étouffant et fascinant à la fois. Dire que, enfin, j'ai lu quelques réactions après sur internet. Il y en avait qui tellement c'était hallucinant, il y en avait qui croyaient que c'était du maquillage, mais je me sentais obligé, je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible de catcher dans ces conditions, et ce qu'a fait Cody Rhodes, c'est en effet, je pense, historique, alors historique pour des bonnes, pour des mauvaises raisons, je saurais pas dire, il y a un débat qui est légitime, qui est de se dire, est-ce bien raisonnable de glorifier, on va dire, d'une certaine façon, un tel dépassement de soi, on va dire, qui est destructeur presque, hein, parce que c'est on sait, enfin, je pense que c'est plus la peine maintenant de qui plus est après un match comme ça de marteler à quel point les catcheurs, enfin, mettent toute leur santé et vraiment leur vie, hein, clairement au service. Au service de ce divertissement et au service du public, c'est des mecs qui ont des espérances de vie, qui plus est les catcheurs un peu plus old school, qui meurent généralement tôt de trauma crânien, de leur corps qui lâche, de crise cardiaque, enfin de tout un tas de leur corps qui lâche, de tous les médicaments et les painkillers qu'ils auraient pu prendre pendant leur carrière. Enfin, c'est des mecs qui comptent pas leurs efforts. Hein. On a beau dire le catch, c'est du chiquet, c'est voilà, encore une belle démonstration, je pense que les mecs vraiment sont des surhommes. Ouais. Mais est-ce qu'on doit pour autant glorifier ou acclamer ce genre de dépassement? Je là comme ça aujourd'hui, là juste après avoir vu le match, j'aurais envie de dire oui, parce que c'est vrai que c'est
C'est tellement beau et ça a été tellement bien exécuté et bien... Et d'ailleurs, bon, là, on s'attarde sur Cody Rhodes, qui est le héros du match, hein, de fait, parce qu'il a gagné et c'est historique ce qu'il a fait, mais il faut, je pense, rendre un hommage assez incroyable. Et à mon avis, je pense que Cody Rhodes et tous les mecs dans le vestiaire ont dû faire, je pense, une haie d'honneur à Seth Rollins pour le ouais. match qu'il a fait encore une fois, parce que
c'est Seth Rollins... Faire un match comme ça contre ouais. un adversaire qui est blessé ouais.
Exactement, arriver à faire catcher son adversaire comme ça pendant 20 minutes, enfin c'était pas un, on aurait pu se dire aussi que le mais pendant 25 minutes quasiment, donc c'est un gros main event, c'est-à-dire qu'on aurait pu aussi se dire attends, ok, on va y aller, j'ai mal mais on va y aller, puis on va faire 10 minutes et puis basta. Les mecs ils ont déroulé tout un match avec des callbacks, des hommages à Dusty Rhodes, à Triple H, des spots de dingue. Le mec Cody Rhodes est passé à travers une table. Ils se sont mis des coups de sledgehammer. Seth Rollins qui lui a enfoncé le kendo stick dans l'épaule. À un moment, c'était horrible. Il y a eu le coup de la corde. Là, il y a eu des tours de bras, des slams. Enfin bref, c'était hallucinant. C'était un vrai match de catch. Arriver à faire catcher quelqu'un comme ça qui est blessé et à le faire briller à ce point-là, c'est hallucinant.
Je pense que les gens, quasiment.
Ah oui. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait à quel point Seth Rollins, c'est peut-être. Après, voilà, moi, je peux pas me prononcer sur qui est le meilleur catcheur de tout parce que je regarde que la WWE, donc j'ai aucune notion de ce qui se fait ailleurs, mais. Quand tu vois un match comme ça, tu te dis que Seth Rollins, c'est peut-être le plus grand actuellement à la WWE, parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait là. Et donc pour revenir à Cody Rhodes, écoute, c'est un tel dévouement et je pense que ça doit être tellement douloureux ce qu'il a fait là. J'espère juste, voilà, moi le seul truc que j'espère pour pas que mes louanges, on va dire, soient un peu gâché par peut-être une histoire qui me donnerait tort derrière. J'espère vraiment qu'ils ont fait un gros boulot avec les médecins avant le match pour être vraiment 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 sûr qu'il prenait pas de risque pour sa carrière derrière. Parce que sinon sinon ce sera forcément gâché et les spécialistes de la révision de l'histoire a posteriori pourront nous dire que c'était n'importe quoi. Voilà, il aurait jamais dû faire ça. Mais j'ai cru comprendre que un pectoral déchiré comme ça, hormis la douleur extrême, on peut catcher avec, parce que du moment qu'on soulève rien, apparemment, ça semble être ouais, OK.
Tu peux pas, entre guillemets, hein, parce que moi, on n'est pas des médecins. Hein, apparemment, tu peux pas, comment dire, aggraver la blessure.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il semblerait que tu puisses pas, parce qu'en fait, c'est rompu.
Voilà.
C'est ça, c'est un tendon, c'est rompu, c'est vrai que c'est comme si vous sectionniez, si vous faites une entorse grave avec un déchirement total du tendon, vous pouvez continuer à plier votre cheville, il va plus rien se passer, hein, mais là apparemment c'est un petit peu le même délire, et en fait la seule façon dont il aurait pu aggraver sa blessure, c'était plutôt de faire du coup des efforts qui nécessitaient de soulever ou de porter, parce qu'en fait ça solliciterait, en fait il aurait dû surcompenser avec ses autres muscles et c'est ça qui aurait pu générer la blessure. Bon, toujours est-il qu'en effet on n'est pas médecin, mais je pense qu'on a assisté à un moment d'histoire parce que c'était exceptionnel, parce qu'on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un mec catché avec la moitié du corps en hématome comme ça. Et puis c'est surtout un moment d'histoire parce que je trouve que la performance des deux est dans ces conditions-là est fantastique. Le storytelling du match est magnifique. On s'est jamais ennuyé un seul moment. C'était un magnifique Hell in a Cell. C'est sans doute un des. Il rentrera dans le panthéon des Hell in a Cell, c'est sûr. Pas que pour le contexte. Pour le contexte, pour tout ce qui s'est passé autour, parce que les hommages des deux. En fait, c'était marrant ce jeu de miroir un petit peu avec Cody Rhodes qui pompait finalement les moves et l'inspiration de Triple H pour rentrer dans la tête de Seth Rollins, qui faisait la même chose avec son père. C'était vraiment super c'était incroyable, c'était vraiment un main event incroyable. je je Comme tu l'as dit en intro, parce que ça commence à être long, je vais te laisser reprendre la parole. Mais comme tu l'as dit en intro, je pense que j'ai jamais de mémoire récente, même avec un match de Roman Reigns, hein, je pense, été captivé comme ça de A à Z jusqu'au moment où il enlève son manteau et qu'on voit la blessure. On sent en fait que d'un seul coup il y a l'air qui s'échappe complètement du stade. C'est tout le monde retient son souffle. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec une telle blessure? C'est pas possible. Et les mecs te sortent une masterclass de 25 minutes derrière. C'est avec une victoire. Enfin, Cody Rhodes, c'est The Man après. C'est fini. C'est,
ah oui.
Et alors, c'est la superstar. C'est terminé. C'est là. Et Seth Rollins, c'est d'ores et déjà Hall of Famer dans mon cœur. C'est exceptionnel.
Exceptionnel, ouais, comme tu dis. Alors, tout ce qu'on espère, c'est que ça signe pas une fin de carrière anticipée pour Cody Rhodes.
Oui,
parce que là, maintenant,
surtout ça.
Le tapis rouge est là pour qu'il aille jusqu'au sommet. Il faut un rival de choix pour Roman Reigns dans le futur. C'est tout trouvé avec Cody Rhodes. Là, on a vraiment, sur cette soirée, on a vraiment toutes les étoiles qui étaient alignées pour donner un show et un main event exceptionnel, historique. Avec des choses que même s'ils avaient voulu les écrire, ils n'auraient pas réussi, quoi. Alors déjà, ce qui est, je trouve, plutôt cool, c'est qu'il n'y a eu que un Hell in a Cell ce soir.
Oui, exactement. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je voulais en parler de ça.
Ouais. Et du coup, c'est réservé à cette affiche entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Il n'y a pas de ceinture en jeu, mais depuis WrestleMania, étonnamment, ils ont réussi à tenir leur rivalité de main de maître. Hein. Tout a été très bien exécuté. Il manquait ce petit truc de folie qu'on aura eu ce soir avec cette blessure incroyable de Cody et ce dépassement de soi, franchement, absolument transcendant. Comme tu dis, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu des matchs avec une telle intensité, avec une telle dramaturgie. Il y a eu, alors récemment, j'ai souvenir de quelques matchs au Japon, enfin, surtout. Un match avec Will Ospreay, je me souviens que je crois que c'était contre le vilain Marty Scurll, où Will Ospreay s'ouvre le crâne en début de match et il fait tout le match avec le cuir chevelu ouvert et du sang partout et il sort un match incroyable qui aurait été déjà un très bon match sans l'effet dramatique. Mais sinon,
c'est vrai qu'il y a un côté qui
parce que quand le réel s'insiste dedans.
Ouais, c'est ça. Je connais pas le match dont tu parles, mais c'est vrai que je me dis, il y a un côté où ça devait sans doute être super impressionnant, mais tu sais, il y a eu tout le passé du blading, des saignements dans les matchs abondants, qui fait que c'est peut-être des images auxquelles on a peut-être plus l'habitude d'être confronté quand on regarde des matchs un peu épiques.
Quand
tu regardes des matchs d'il y a 15-20 ans, c'est vrai que quand tu pensais à confrontation épique, confrontation de légende, bon bah tu pensais au visage, au Crimson Mask comme ils disent aux États-Unis, le visage ensanglanté, les trucs de dingue, les Hell in a Cell entre Shawn Michaels, Triple H ou l'Undertaker, les mecs qui finissent avec le ring qui est rouge et tout. Là, il y avait quelque chose d'assez inédit d'assez incroyable en fait de voir cet hématome presque surréel quoi et qui rendait l'image à la fois malaisante et captivante quoi. C'était assez fou.
On a Kurt Angle aussi qui avait catché avec une blessure, mais ça il l'avait pas dit quand il s'était blessé aux vertèbres, hein, vertèbre fracturée ou quelque chose comme ça. Il avait fait le main event de WrestleMania face à Brock Lesnar. Tout ce match-là, il était blessé, mais bon, ça, on n'avait pas l'annonce avant le match. Et
ça se voit pas, en fait.
Voilà,
ouais, c'est ça. Ouais.
Sinon, je ne sais pas si tu te souviens du match avec Cesaro qui s'explose les dents sur le coin du ring.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Il est dans la gencive et il continue le match comme si de rien n'était.
Ça, c'est vrai que c'était une sacrée...
Ça a fait la légende de Cesaro, ça aussi. Hein.
Ouais. Alors, parce que ça devait...
On n'était pas en main event.
Extrêmement douloureux aussi. Ouais.
Ouais, ouais. Là, en plus, on est en main event. C'est toute la soirée repose sur ce match, hein, quelque part.
Oui, c'est vrai que ça occulte presque tout.
Voilà.
Et c'est ça qui est dingue.
Et derrière, ils nous servent ce qui sera sûrement le match de l'année. Hein. Je vois pas comment on va réussir.
C'est très dur d'aller les chercher.
Hein. Voilà. Et comme tu dis, c'est un des meilleurs Hell in a Cell depuis longtemps. Moi, je suis pas particulièrement client de cette stipulation. Si au préalable, t'as pas une rivalité qui fait le poids derrière. Là, pour une fois cette année, on avait la rivalité qui allait bien. L'intelligence de faire que un Hill in the Cell, ça serait vraiment bien qu'ils continuent à faire ça comme ça. Ça sert à rien de mettre les filles dans la cage, etc.
Non, et puis c'est bien, je trouve. Le main event, c'est le Hell in a Cell. Il y en a qu'un, voilà. c'est ça. Ça galvaude un peu moins la gimmick, déjà.
Voilà, ça la replace. Alors là, pour le coup, ils ont replacé le Hell in a Cell.
Ah bah là, ils ont reforgé un peu la légende. Ouais.
Ouais. Alors là, on voit l'intelligence d'avoir réembauché Cody Rhodes et de le mettre place à Seth Rollins, qui, comme tu le dis, est sûrement peut-être le meilleur catcheur de la WWE. Ça c'est sûr en vérité, hein. Mais ouais. C'est depuis longtemps que Seth Rollins. Alors après, il a l'occasion de briller, de moins briller. Mais quand t'as un mec comme ça, effectivement, tu le gardes pour le main event, tu le gardes pour les grandes occasions, et notamment pour un match comme ça face à Cody Rhodes, si tu veux pas te planter. Donc ouais, peut-être pour des mauvaises raisons, est-ce qu'on a, on est à fond dans ce match. Mais après, faut pas se leurrer. Si on regarde du catch, hein, c'est pour voir des mecs se taper dessus, se faire souffrir. Et aussi pour qu'on ait des fois le réel qui percute un peu la scénarisation. Et là, franchement, moi je suis aux anges, parce qu'on vient de voir, on vient de vivre un truc qui restera historique dans l'histoire de la WWE. Et ça fait plaisir de voir que peut-être si Cody Rhodes survit à tout ça, il sera sur le piédestal qu'il mérite et qu'on va enfin avoir une opposition à Roman Reigns qui sera un peu plus crédible que ce qu'on a eu par la suite, ou ce qui marche qu'à moitié, hein, comme un Drew McIntyre ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de respect pour Drew McIntyre ou pour Bobby Lashley, mais on sent bien qu'ils sont obligés de forcer, alors que là, Cody Rhodes, c'est lui qui s'impose, quoi, pour aller chercher le truc. Personne ne pourra lui voler.
Là, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas allé la chercher. Hein.
Ouais. Voilà, donc ça va être difficile de le critiquer dans l'avenir, quoi qu'il arrive, à part de dire « oui, tu n'aurais pas dû y aller, tu donnes le mauvais exemple ». C'est du catch ici, les enfants. Hein. C'est pas une compétition de tricot ou une course d'escargot. Hein. On est, c'est pas du curling, quoi. Donc, voilà. Hein, je pense que toi comme moi, on a été complètement
soufflé
par ce main event absolument incroyable. Voilà, ça arrive de temps en temps qu'on rentre dans l'histoire du catch. Ben là, on y était, les enfants. Donc, on vous recommande évidemment, effectivement, d'aller voir tout ça. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Hein. Bon, Giscal, on va devoir donner un top, une flop et une note. Je t'écoute.
Alors, mon top. Écoute, je vais pas le donner à Cody Rhodes parce que, enfin, c'est trop évident. Même si vous avez quand même compris, hein, que c'était le top, mais on va en profiter parce qu'on vient de passer, je pense. Presque plus de 20 minutes sans problème, on verra à l'enregistrement sur ce match. Mais je vais revenir un petit peu plus bas dans la carte. Écoute, je vais revenir et je vais filer un petit coup. Je lui avais donné un mini flop à Backlash. Bah, je vais lui donner un mini top à Matt Catmos. Je vais lui donner un petit flop, un petit top, parce que écoute, dans ce pay-per-view où il avait toutes les chances d'être un peu perdu, d'être un peu noyé, parce qu'il y avait quand même tout un tas d'affiches plus alléchantes, on va dire, que son match quelconque contre Baron Corbin, qui plus est une redite, j'ai trouvé que cette fois, il avait capitalisé sur son moment, il avait sorti quelque chose d'intéressant, il a montré des choses qui sont prometteuses, et je le... Bah écoute, je suis content pour lui, c'est des moments qui sont importants dans des carrières de jeunes catcheurs comme ça. Donc, tant mieux pour lui, et on va le suivre à l'avenir. On va voir comment est-ce qu'il arrive à transformer cet essai que la WWE lui propose, en tout cas de tirer là. Matt Capmos, bravo, bonne prestation et bon no holds barred sur ce pay-per-view. Et mon flop, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tout a été très très
même
bon.
Le rap de MVP, on peut pas lui donner.
Ouais, exactement. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance théorie Mustafa Ali, parce que ça reste un bon match et voilà, c'est plus la faute de la WWE. J'ai pas vraiment de flop. Peut-être Liv Morgan, parce que je l'aime pas. Je peux tuer Liv Morgan.
La pauvre. Oh,
non, j'ai pas
content.
Ouais, j'ai pas vraiment de flop. Et puis écoute, ma note, je vais me garder un peu de mou parce que l'année n'est pas terminée, mais je vais donner un 4,5. Ouais. Je vais donner un 4,5 à ce pay-per-view qui Bah ouais, qui a été fait avec le main event, quoi, qui est un main event absolument historique, qui mériterait 5 à lui tout seul. Mais au demeurant, le reste de la carte, j'ai été agréablement surpris par ce pay-per-view. Ouais. J'en attendais pas grand-chose. On était sur un build qui était relativement mauvais quand même sur ce Hell in a Cell. Hell in a Cell, c'est un petit peu comme Extreme Rules fut un temps. Je crois pas que ça n'existe plus, mais c'est des pay-per-view qui sont censés être vachement axés autour de rivalités assez sanglantes, assez intenses, des grosses stipulations. Et au final, à aucun moment dans le build, j'ai eu l'impression que des matchs sur la carte méritaient, on va dire. On se sentait pas aller vers Hell in a Cell. Et bah écoute. Après avoir fermé ce pay-per-view, qui plus est avec le main event évidemment, mais j'ai eu un pay-per-view qui était bien intense, qui était bien costaud, bien violent, avec des gros mastocs qui se sont foutus sur la tronche, des gros matchs de costaud, ça m'a bien plu. Donc, écoute, des pay-per-view de transition comme ça, j'en demande plus souvent. On est vraiment sur un bon format là, avec ce format maintenant un peu plus court et qui laisse la part belle aux quatre gros là. Donc ça m'a bien plu, ça m'a beaucoup plu même.
Est-ce que c'est pas la WWE qu'on aime ça?
Ah si.
Et pay-per-view comme ça. Hein. Écoute, je te rejoins sur beaucoup de choses. Le top, j'aurais pu le. Alors évidemment, on peut le donner au main event. Ça crève les yeux. J'aurais été tenté. D'ailleurs, je voulais le donner à Madcap Moss également. Mais tu m'as piqué mon top. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai envie de le donner à la construction de la carte, même si on aurait pu placer le Mustafa Ali Theory un peu plus tôt. Le fait qu'on soit sur quelque chose de plus court et surtout qu'on a fait que un Hell in a Cell, une défense de titre intermédiaire, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, on a eu quand même des années où à chaque fois on disait Takeover a piqué un peu le Starlight du show du main event. Le mieux, c'est quand même NXT, etc., etc. Ça, c'est fini maintenant. Hein. Maintenant, on a un Takeover. Alors, on vous en reparlera peut-être du In Your House de NXT, mais c'est complètement anecdotique par rapport à ce qu'ils nous ont servi ce soir, surtout avec une carte qui payait pas de mine. Et je pense que l'intelligence, c'est d'avoir fait que un Hell in a Cell et d'avoir pour le reste laissé les catcheurs briller avec des en leur laissant ne pas surscénariser les matchs comme ils ont eu tendance à le faire beaucoup et pour ce soir on n'a pas eu de finish à la con où on s'est arraché les cheveux en se demandant ce qu'ils étaient en train de faire quoi. Il y a tout qui est coulé de source et on a eu ce moment historique enfin et je pense que il y a une partie de la réussite qui est due au dosage qui a été faite au niveau de la construction de la carte. Donc là-dessus, je vais mettre le top, avec surtout le fait de ne faire que un Hell in a Cell. Là, je pense qu'il faut que ça fasse école. Hein. Le flop, comme tu dis, c'est difficile. Hein. J'ai envie de le donner à la défaite de Mustafa Ali. Je pense que ça aurait peut-être mieux de le faire gagner. Théorie peut reprendre après le titre, quand bien même lundi, ou quelque chose. C'est un petit peu dommage de... Toujours de faire perdre l'enfant du pays, je pense. Une petite pop du public du Chicago, ça aurait été pas mal. Surtout que derrière, ils n'avaient pas trop à s'inquiéter. Enfin, ils avaient peut-être beaucoup à s'inquiéter quand même. Donc, on n'aurait jamais cru qu'ils nous sortiraient un main event comme ça, de toute façon. Le flop peut aussi aller à la blessure de Cody Rhodes, mais quelque part, c'est un top aussi. Donc voilà. Alors moi, je voulais j'avais prédit un moonsault du haut de la cage de Cody Rhodes. On ne l'a pas eu, mais on a eu quelque chose de bien meilleur. Enfin, je sais pas, c'est mitigé quand même dans le cerveau, hein, parce que tu sais pas si tu dois être content ou pas content avec cette blessure. En tout cas, bel exemple de dépassement de soi.
On espère que si c'est 6 mois comme ça semble être le cas et qu'il n'a pas aggravé quoi que ce soit, ça va nous faire un sacré retour pour le Royal Rumble et une sacrée road.
Ouais. Donc là, bon, moi je suis maintenant désormais fan numéro 1 de Cody Rhodes. Hein. Qu'est-ce qu'il reste? Une note, je vais mettre comme toi 4,5. Hein. Faut se garder des munitions pour la suite.
Des cartouches, on sait jamais.
Ouais. Voilà. Bon, c'était historique. Tout a été très bien exécuté, mais à la base, c'était quand même une carte un peu sèche, quoi. Il n'y avait pas de quoi s'emballer au départ.
Et non. D'ailleurs, il n'y avait que deux ceintures, pas de titre suprême. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ingrédients pour que ce soit pas terrible. Ce qui renforce d'ailleurs le même le la bonne impression de se dire qu'ils ont réussi à faire beaucoup avec pas grand-chose, quoi.
J'ai l'impression que ça devient un petit peu la marque de fabrique en ce moment de la WWE, c'est-à-dire d'avoir des weekly qui sont assez faibles. Et par contre, derrière, des pay-per-view, enfin des premium live events, comme on dit, qui envoient la sauce, par contre. On préférerait avoir toutes les semaines aussi de la qualité, mais c'est quand même bien quand tout est rattrapé par un premium live event. On espère continuer sur cette lancée. En tout cas, voilà, vous aurez compris que c'était quand même un pay-per-view historique qu'on vous invite fortement à aller regarder. Hein.
Ah oui, ça, après, faut pas le louper celui-là.
Ne zappez pas, prenez votre temps. C'est pas si long en plus, c'est tout à fait digeste. Et c'est quand même incroyable ce final. Qu'est-ce qu'il faut parler? L'autopromotion.
Ça, c'est important, ça aussi.
Oui, je vous ai pas parlé. On est sur Twitter, figurez-vous, @catchupcdc. C'est très important d'aller sur Twitter. Vous y retrouverez toutes les informations qu'on donne sur Twitter, c'est vraiment, vraiment très important. On est aussi sur Facebook et Instagram, mais moins souvent. C'est peut-être amené à disparaître, donc si vous voulez nous voir...
C'est maintenant ou jamais.
C'est maintenant ou jamais, c'est bien, on ferme bientôt. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, évidemment. On est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'on a un nouveau contenu qui sort. Tout ça, c'est gratos. Discord, on y est aussi. L'invitation pour nous rejoindre et discuter, c'est dans la description. Et on vous annonce que les résultats des pronos seront divulgués dans la review de Monday Night Raw en ligne très, très rapidement pour savoir qui a fait le meilleur score. Je pense que c'est Giscard.
Sans doute. Enfin, j'imagine. Je suppose. Le challenge pour les auditeurs, c'est de savoir à combien de points vous êtes derrière moi.
Voilà.
Vous le saurez lors de la review de Raw, en effet.
C'est ça. Essayez d'être le deuxième derrière Giscal, c'est le
c'est
but. Il y a une Saturn Roll-Up qui est en jeu à chaque pay-per-view, et puis bien sûr un champion total, le maillot jaune, qui sera d'ailleurs finalisé dans le dernier match, dans le dernier pay-per-view, donc normalement WrestleMania.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Donc, tout ça, tous les résultats dans la review de Monday Night Raw. Je pense que je n'ai rien oublié. On est aussi sur clapping.tv. Tiens.
Ah.
Eh oui, toutes les semaines. Vous pouvez nous retrouver à chaque fois qu'on sort un nouveau programme.
Et... J'ai l'air surpris, ça fait pas sérieux.
Oui. On rappelle que Giscal revient de vacances.
Oui, je suis.
Je suis pas au courant de tout. De longues vacances.
On va pas redonner tous les accès. Je sais pas tout encore.
Tout doucement. Bientôt, tu seras au top. T'inquiète pas.
Oui. La prochaine fois.
La prochaine fois, on fera mieux. La prochaine fois, ça, c'est toujours une promesse.
C'est toujours valide, ça.
Exactement. Voilà. Écoute, mon bon Giscal, d'ailleurs, merci beaucoup d'être venu.
Écoute, un grand plaisir. Merci à toi d'avoir assuré cette présentation impeccable.
Oh, je te remercie et évidemment, c'est un plaisir partagé. On espère qu'on refait ça bientôt. Et puis les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. On vous rappelle qu'on a en ligne quand même, ça je ne l'ai pas dit, un You Talk Too Much avec le président d'Aya Catch, que vous connaissiez un petit peu tous les secrets du catch français. Vous pouvez aller écouter ça, comment on monte une école de catch, comment le catch c'est l'école de la vie. Allez écouter ça, c'est en ligne, nos reviews de Monday Night Raw, de SmackDown, tout ça c'est en ligne, et on a aussi le pré-show. C'est mieux de l'écouter avant de nous avoir écoutés. Hein. C'est peut-être un peu tard pour vous en faire la promo.
Oui.
Mais bon, hein, on n'est pas à une erreur près. Voilà. Bon, Giscal, encore merci. Les amis, à bientôt. On se retrouve très très bientôt. Ciao, bye bye.
Allez, ciao, ciao tout le monde. Il faut toujours laisser un peu de temps après ou pas? Ou c'est fini?
Ouais, il faut faire une blague, etc.
Ah, okay. Genre quoi, le catch féminin c'est trop bien ou un truc comme ça?
Ça c'est marrant.